Radio Zone 93.8, il est question d'amniosynthèse, le témoignage d'Evelyne.
Mais effectivement, je sais que c'est un problème.
Non, parce que j'imagine que les assurances, les médecins ne proposent pas l'amniosynthèse à toute femme qui est enceinte, pas seulement à cause des dangers médicaux, mais pas à cause de l'argent. En tout cas, les assurances, c'est évident. Crie au scandale lorsque le tribunal fédéral a dit « vous devrez payer
».
C'est une histoire d'argent, c'est pas une histoire médicale.
D'accord, mais si la femme le désire vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle. Ou alors, effectivement, elle doit payer de sa poche. Mais moi, j'en étais au point de me dire que si mon assurance ne remboursait pas, je payais de ma poche.
Donc tu penses que même une femme à 25 ans, qui, selon les statistiques, aurait fort peu de chance, très peu de chance même, d'avoir un enfant anormal, par exemple, mongol, tu penses que pour calmer son angoisse, elle devrait pouvoir faire l'amniosynthèse?
Ouais, ouais.
Est-ce que toi, par exemple, entre le moment où tu as fait le test et tu as dû attendre des résultats, est-ce qu'il s'écoule quand même 3 semaines, 1 mois, est-ce que c'était un moment particulier pour toi? Est-ce que tu t'es sentie dans un état différent par rapport à ta décision?
Non, pas vraiment un état différent. Je trouvais que c'était long. Alors au début, j'étais très impatiente. Les premiers jours, vraiment, j'étais très impatiente. Du moment que, que les 2 jours passés à risque étaient passés, justement, je trouvais long. Et puis finalement, tu es assez vite récupéré par le rythme quotidien. Par contre, quand tu sais que le délai des 3 semaines est passé et que tu n'as pas encore reçu de téléphone, alors là, tu es impatiente et toi-même, tu prends le téléphone. Et bon, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, je voulais savoir le sexe de l'enfant. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais savoir si c'est une fille ou un garçon. Et quand la secrétaire m'a dit, c'est un garçon, j'ai été complètement fébrile, j'ai commencé à trembler, une émotion, je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. Je me suis dit, vraiment, c'est un truc qui va passer comme ça, je le saurai, je continuerai mes 5 mois, pas de problème et tout. En fait, pas du tout. Il a fallu que je prenne le téléphone, que je téléphone à tout le monde pour le dire tellement. Et pendant 2 jours, j'étais d'un excité. En fait, j'attendais plus que l'accouchement. Pour moi, c'était le lendemain, je devais accoucher, c'était fini, c'était l'excitation à ce point-là. Et puis après 2 jours, bon, ça s'est calmé. Je fais avec le fait de savoir que c'est un garçon, et puis voilà. Mais j'étais contente de l'avoir su parce que je pensais attendre une fille. Alors, en fait, j'ai dû simplement un peu tourner le bouton dans ma tête en me disant, bon, ben, c'est pas une fille, c'est un garçon, c'est pas une déception. Parce que les gens me disent, mais alors, t'es déçue. Je dis, non, c'est pas une déception, c'est changer d'histoire, parler à un garçon plutôt qu'à une fille. Et puis, je suis contente de l'avoir faite maintenant plutôt qu'à la naissance, puis d'attendre 2 jours avant de me dire, ah, c'est vraiment un garçon.
Donc c'est pour ça que tu avais demandé à savoir le sexe, une histoire de communication pendant ton...
Et puis Guillaume voulait un petit frère, alors je voulais pouvoir le préparer.
Est-ce que au moment où tu étais enceinte, est-ce qu'il t'est passé dans la tête de dire « Je ne vais pas dire à mes amis, à mes parents, etc. que je suis enceinte tant que je ne sais pas si c'est un enfant normal ou anormal. » Dans le sens qu'avec l'idée que tu avorterais ou tu accoucherais, on est obligé de dire ce mot-là, puisque c'est comme ça que ça se passe avec l'amniosynthèse, donc que tu perdrais un enfant éventuellement, est-ce que ça voulait dire que tu voulais cacher le fait que tu étais enceinte, ne pas dire tant que tu n'étais pas sûre que tu allais le garder?
Non, pas du tout. Non, non. Et même cette fois, je voulais le dire assez tôt, parce que du moment qu'il y avait Guillaume, je me suis dit, lui va le dire, alors j'aimerais pouvoir le faire moi-même. Et puis, mais non, pas du tout.
Y compris par rapport à Guillaume, parce que comment t'aurais expliqué ça à Guillaume, en admettant que tu aies dû arrêter ta grossesse?
Je crois que je me suis posé la question, j'en ai pas parlé avec Marc, mais je me suis posé la question moi, et je crois que je leur ai expliqué tout simplement que c'était un enfant malade, enfin, je sais pas, je me suis pas fait les phrases, mais je leur ai expliqué vraiment comme ça. Et pour moi, c'était, encore une fois, c'était plus simple de le faire maintenant à 16 semaines qu'à 9 mois.
Voilà, nous avons entendu, Christine, le témoignage de Jacqueline et Evelyne. Donc, nous le rappelons, Jacqueline, c'était son premier enfant et elle avait 38 ans, donc un âge assez tardif pour avoir un enfant. Evelyne, elle n'avait que 32 ans. Elle l'a fait pour d'autres, c'était son deuxième enfant en plus. Elle l'a fait pour d'autres raisons, l'appel à la technique, une référence à la technique. Alors, peut-être, Christine, il y a toutes les autres femmes qui sont soit beaucoup plus jeunes, soit toutes celles qui choisissent de ne pas utiliser ni la myosynthèse ni la chorionsynthèse et qui peut-être se posent quand même ces mêmes questions.
Oui, effectivement. On a pris l'habitude depuis quelque temps de proposer un test qui est quand même plus simple au niveau technique, qui s'appelle un dépistage d'alpha-fœtoprotéines et qui se fait avec du sang. Donc il suffit de faire une prise de sang. Mais quand on dit il suffit, ça veut dire qu'on prend aussi la responsabilité d'un acte médical et d'un dépistage. Et la femme doit savoir que ce dépistage, qui semble apparemment anodin, peut l'amener par la suite à d'autres investigations comme une amniocentèse. Et ce test sanguin est proposé à toutes les femmes qui voudraient dépister une maladie bien spécifique qui est un problème de moelle épinière qui provoque chez l'enfant différentes malformations dont une, l'anencéphalie, qui n'est pas compatible avec la vie. Donc c'est de toute façon un enfant qui ne va pas vivre, mais il y a d'autres anomalies dépistées. Alors, ce test a l'avantage d'être pris, d'être fait avec du sang de la mère. On analyse des cellules fœtales qui sont dans le sang de la mère. Simplement, ça ne peut pas se faire avant la 15e semaine. Mais c'est peut-être important pour certaines femmes qui ont une hésitation à faire une amniocentèse, qui ont renoncé à avoir un dépistage dans les trois premiers mois, qui ne veulent pas faire de chorionocentèse mais qui hésitent à faire une amniocentèse. C'est peut-être important qu'elle commence par ce test-là qui se fait très tôt, donc à 15 semaines, et qui donne une réponse, en tout cas, pour un certain nombre de doutes. Et si on a un doute, à ce moment-là, on peut toujours faire une amniocentèse après.
Je demandais tout à l'heure à Evelyne si elle considérait que l'amniocentèse pouvait être une sorte de plus grande liberté donnée aux femmes. Là, tu as réagi en disant que ce n'est pas tellement une question de liberté tout court, c'est plutôt face au choix que se pose le problème.
Oui, parce que c'est vrai que tout existe dans beaucoup de domaines. Donc, on peut consommer, revendiquer, obtenir un certain nombre de tests ou de dépistages médicaux. Le problème, il est que c'est au moment où on a une réelle confrontation avec un choix, à savoir au moment où on a une réponse, que se pose la difficulté de décider. Et ce qui est important, ce serait que l'ensemble des femmes aient l'information. Et c'est vrai qu'il n'y a encore pas suffisamment d'informations. C'est important qu'elles connaissent toutes les possibilités de dépistage. Et c'est à ce moment-là qu'elles font vraiment un choix et qu'elles peuvent vraiment se confronter à une réalité. Parce que c'est vrai que ça a une résonance différente. Là, on a eu deux témoignages. Une femme qui l'a fait pour se sécuriser par rapport à une angoisse qu'elle avait ou à des craintes qu'elle avait. Et une autre qui l'a fait parce que pour elle, c'était clair qu'à cet âge-là, elle devait faire ce test. Et ça a une résonance différente aussi. Si une femme doit prendre la décision d'interrompre une grossesse comme première grossesse ou si elle a déjà un enfant.
Que penses-tu de leurs deux attitudes fondamentalement différentes? Jacqueline a dit qu'elle n'avait annoncé à personne sa grossesse avant de savoir si oui ou non son enfant était normal, donc si elle allait le garder. Alors qu'Evelyne a dit, pas question, moi je l'ai tout de suite dit. Bon, si j'avais dû interrompre ma grossesse, j'en aurais parlé aussi bien à ma famille qu'à son enfant, puisque donc elle avait déjà un premier enfant. Est-ce que tu penses qu'il y a une attitude qui est meilleure que l'autre?
Non, je pense que chaque femme, pour chaque grossesse, a des réactions différentes. Donc indépendamment d'un projet qui serait un enfant en bonne santé ou du problème d'attendre de savoir s'il est en bon état, il y a tout le problème du petit risque du début de la grossesse. Cette femme, ça m'a frappée, Jacqueline, elle savait qu'il y avait beaucoup de fausses couches dans le premier trimestre. Donc elle se disait, elle devait se dire, bon, il y a l'âge, plus le risque de fausses couches, plus un certain nombre d'avatars qui peuvent faire que, bon, je peux perdre cette grossesse, donc je ne vais pas l'annoncer avant d'en être tout à fait sûre. Et puis pour l'autre, cette femme qui a déjà eu un enfant, elle le vivait différemment. Mais moi, j'ai vu beaucoup de femmes avoir des réactions pour chaque grossesse différente. Et c'est vraiment la manière dont elle se situe par rapport à ce projet d'enfant qui va changer son attitude. Souvent, après une première fausse couche, ces mêmes femmes auraient tendance à différer l'annonce de leur grossesse suivante.
Nous allons maintenant entendre un entretien que j'ai eu avec le professeur Éric Angel, qui est considéré comme le spécialiste des tests prénataux. Mais avant de faire cette conversation assez longue avec le professeur Angel, je vous propose un disque. <t'->
poésie qui s'harmonise avec tes yeux. Ta mère a poussé les hauts cris, cris. Elle t'avait dit bonjour monsieur en te croisant dans l'escalier. Et quand elle t'a regardé mieux, c'est là qu'elle s'est mise à hurler. On se demande quelquefois si tu as toute la tête à toi. Comment peux-tu faire tant de peine à ta mère, tant de soucis? Comment peux-tu faire tant de peine à ta mère, c'est pas gentil. Oreille gauche, rien qu'un petit anneau fantaisie. Tu trouvais pas ça vraiment moche. Ta mère a poussé les hauts cris, cris. On a déjà bien assez de mal pour s'y retrouver aujourd'hui. De la partie. On se demande quelquefois si tu as toute la tête à toi. Comment peux-tu faire tant de peine à ta mère, tant de soucis? Comment peux-tu faire tant de peine à ta mère, c'est pas gentil.
C'était Mama Béa, comment peux-tu faire tant de mal, tant de peine à ta maman? Nous continuons à parler de l'amniocentèse avec, je vous le rappelle, Christine, la consultation des sages-femmes en direct avec nous. Et là maintenant, pas en direct parce qu'il n'était pas disponible pour se déplacer jusqu'ici, mais nous a quand même accordé un grand moment pour nous expliquer son travail, c'est-à-dire le professeur Eric Angel, spécialiste de la question à l'Institut de génétique médicale.
Angèle, j'aurais aimé vous demander si vous avez choisi de vous spécialiser dans la question de l'amniocentèse et j'imagine toute la génétique médicale, parce que dans votre tête, clairement, il y a un choix au point de départ, qui est de dire on ne doit pas mettre au monde des enfants anormaux si l'on peut l'éviter.
Ah oui, c'est d'autant plus vrai que du moment que dans notre société actuellement, on tente à limiter le nombre des enfants que l'on aura, on a peut-être de plus en plus d'exigences en ce qui concerne leur santé et pas seulement juste la dimension de sa famille. Et les progrès actuels de la technique, qui sont plutôt récents, mais pas tous tellement récents, nous permettent d'aller assez loin dans cet objectif d'avoir des enfants sains, normaux et qui se développeront bien.
Dans ce sens-là, toutes les personnes qui sont les femmes ou les couples qui se posent la question à un moment donné, soit parce qu'ils ont l'intention d'avoir un enfant et qu'ils sont déjà relativement âgés, s'adressent à vous et en principe, vous avez un entretien avec eux.
En réalité, ça peut être un peu différemment parce que, bien entendu, nos collègues gynécologues et obstétriciens ont eux-mêmes une connaissance très avancée de ces questions et au cours des soins qu'ils donnent aux femmes et dans le cours également de la surveillance des grossesses, ils vont les guider, les conseiller. Et lorsque l'on voit une indication à un test de dépistage prénatal, ce qui est une précaution, en fait, leur donner déjà beaucoup des renseignements dont il faut avoir la connaissance.
Donc, ce n'est pas essentiellement une rencontre où on discute technique, mais c'est plutôt une discussion ou un entretien où vous essayez d'avoir une discussion au niveau plus éthique ou plus psychologique?
Alors, en ce qui nous concerne, ce sont très souvent d'abord des discussions qui vont proposer à la demande des personnes qui s'intéressent au test, à la fois les tenants et aboutissants du test, ou en quelque sorte ses avantages, ses raisons de le faire et les inconvénients qu'il peut poser. C'est, je crois, d'abord et avant tout la préoccupation qui tient à cœur à nos consultantes. Et bien entendu, en envisageant ces différents problèmes, les questions aussi de la psychologie de la situation et des éventualités qui peuvent découler de tests qui, par malheur, auraient des résultats peu favorables sont évidemment aussi envisagés. Et déjà à l'avance, en quelque sorte, nous essayons d'anticiper les éventualités à différents degrés, selon le degré naturellement d'intérêt et de curiosité des personnes qui viennent au renseignement et qui viennent chercher des informations concernant ces problèmes.
Alors peut-être parlons plus concrètement de ce que vous leur expliquez. Par exemple, il y a deux tests possibles qui aujourd'hui peuvent permettre de dépister un certain nombre d'anomalies dans le développement de l'enfant, qui est la chorio-synthèse et l'amniosynthèse. Vous leur présentez les deux en pensant qu'il y a un des deux qui est meilleur?
C'est une question très intéressante que vous posez, parce que ce genre d'objectivité n'est pas possible. Mais ce que nous essayons de faire, c'est, sans décider pour les usagers potentiels de ces tests, nous essayons aussi objectivement que possible de leur donner à la fois les avantages et les inconvénients éventuels de l'une ou l'autre des deux approches. Nous n'avons pas une attitude que l'on pourrait qualifier de directive. Nous informons. Et nous essayons de mettre à la portée cette information à la portée de chacun, et ensuite de laisser le cheminement de la décision se faire essentiellement par les personnes qui sont les plus concernées, qui sont manifestement les couples, les femmes enceintes.
Le test détermine des malformations. Est-ce que vous clarifiez très nettement avec les patientes, vous devez quelque part être prêt à décider d'avorter ou d'interrompre votre grossesse et de savoir ce que ça signifie?
Oui, c'est un sujet que nous touchons, mais toujours alors avec précaution et tact, parce que il fait partie d'un bon conseil génétique, d'une bonne discussion, de ne pas alerter les consultants à des situations qui sont forcément pénibles et qui ne se produiront heureusement pour eux et pour nous que dans un petit pourcentage des cas testés. Un des grands avantages de ces tests, c'est que, je dirais, dans 98% des cas, ils vont donner confiance et rassurer les usagers. Et c'est seulement pour les quelques infortunés qui ont un mauvais résultat que l'on va vivre ce processus extrêmement éprouvant d'une interruption et des conditions de cette interruption. Alors, nous l'évoquons, sans appuyer.
Est-ce que dans l'histoire du couple ou de la famille, il y a aussi moyen de percevoir, de savoir qu'il peut y avoir des malformations chromosomiques? Est-ce que ça fait partie de vos entretiens?
Ah oui, tout à fait. Et là, vous posez une question qui est essentielle, et je crois que vos auditeurs et auditrices, surtout auditrices, aimeront à le savoir. C'est que ce n'est pas seulement l'âge maternel, disons après 30 ans, surtout après 35 ans, qui constitue une indication à ces tests en fonction de la recherche d'une anomalie chromosomique. Mais si un couple, et en particulier une maman, a déjà eu le malheur d'avoir un enfant avec une anomalie chromosomique, il existe souvent un risque que un tel problème se répète. En tout cas, sa probabilité ou la probabilité qu'il a de se répéter est plus grand que si ce précédent, celui d'un enfant avec une anomalie chromosomique, ne s'est pas produit. En réalité, en génétique, la phrase, vous savez, la foudre ne tombe jamais deux fois sur le même clocher, est l'antithèse de la vérité. C'est-à-dire que c'est le contraire de la vérité. Quand la foudre est déjà tombée, je parle en images en ce moment, mais quand il y a déjà eu un malheur génétique ou un malheur chromosomique au niveau du futur bébé ou du bébé d'un couple, il existe un risque augmenté. Pas effarant, je ne veux pas du tout effrayer vos auditrices, en aucune façon, c'est même des situations pleines d'espoir, mais il faut savoir néanmoins que dès lors, il existe un risque un peu plus grand que cela ne se répète. Donc ça, c'est une deuxième indication. Et puis, figurez-vous que, paradoxalement, Il existe certains couples, ils ne sont pas rares, où plusieurs fausses couches spontanées se sont produites. Le couple est navré deux fois déjà, peut-être trois fois, notamment dans le premier trimestre. Une grossesse n'a pas pu être poursuivie à cause d'une mort dans la matrice ou bien d'une fausse couche. Et là également, ces situations peuvent attirer l'attention à l'éventualité d'une anomalie chromosomique. Et on aime à faire savoir que l'on pourrait se bien trouver de faire justement une amniosynthèse, si on en comprend l'intérêt, les avantages et les inconvénients éventuels. On aimerait que dans ces cas-là, éventuellement, en tout cas, le procédé de dépistage soit considéré pour assurer une meilleure issue à la grossesse en cours. Donc, ce sont là les indications auxquelles nous avons recours.
Il n'y a pas seulement les anomalies chromosomiques que le test de l'amniosynthèse peut déceler. Il y a d'autres anomalies, n'est-ce pas ?
D'autres anomalies. Et c'est une notion importante parce que si beaucoup de ces tests de dépistage prénatal, les amniosynthèses et autres, se font pour des questions d'âge maternel, nous y avons insisté, il existe dans bien des familles des drames de nature génétique d'autres sortes. Et plusieurs ou même beaucoup des personnes qui vous entendent savent ce que signifie l'atteinte d'un enfant par la mucoviscidose ou par la myopathie de Duchenne, dont on a beaucoup parlé dans les médias récemment, par l'hémophilie, d'une forme ou d'une autre. Et nous sommes à une époque où non seulement on peut compter les chromosomes, les voir et s'assurer de leur forme et de leur nombre, mais à une époque où on peut entrer, si j'ose dire, dans le chromosome, c'est-à-dire en faire, sur certains points au moins, une analyse moléculaire, et précisément dans les affections que je viens de vous citer. Il y en a d'autres, il faut toujours se renseigner à ce sujet-là lorsqu'il y a un problème de cette nature. Mais les affections que j'ai citées, la mucoviscidose, qui est tellement fréquente, un enfant sur 2000 naît avec une mucoviscidose à Genève, dans la myopathie de Duchenne, qui atteint bien sûr seulement les garçons dans ce cas-là, dont la fréquence est de l'ordre d'une naissance de garçon sur 3000 ou 3500, et dans l'hémophilie, qui n'est que trop fréquente également. Nous avons à l'heure actuelle des moyens d'analyse moléculaire qui interrogent le facteur génétique, le gène, et qui nous permettent dans bien des cas de déterminer dans les familles à risque si l'enfant conçu va avoir, comme son frère ou sa sœur, une mucoviscidose, ou va avoir, comme son frère, une myopathie de Duchenne, et ainsi de suite. Ce sont donc des progrès remarquables, très récents en vérité, qui ont été réalisés dans différents laboratoires de par le monde et dont nous avons aussi l'usage et l'accès ici à Genève dans nos milieux.
Ces maladies seraient héréditaires et se transmettraient même depuis d'autres générations, d'où l'intérêt de questionner le couple ou la mère sur l'histoire de la famille.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, quand nous avons une consultation pour à propos d'une amniosynthèse ou d'un test de chorio-synthèse, une des étapes essentielles de cette consultation, avant de parler des tests, de leurs avantages, de leur intérêt, un des éléments importants de cette conversation, c'est de relever quel a été l'état de santé des proches. Et là, nous remontons jusqu'aux grands-parents et nous penchons sur le cas de personnes qui sont relativement proches de nos consultants et ensuite sur leur santé personnelle, de manière à déterminer si au niveau de l'histoire familiale ou au niveau de l'histoire personnelle, il y a des facteurs de risque dont il nous faut parler en dehors, naturellement, de la question par laquelle on est venu s'informer. Est-ce que dans mon cas, la myosynthèse a un intérêt ou pas, et si oui, à quel degré?
Donc, de toute façon, les gens savent forcément que des maladies telles ont existé dans leur famille. C'est toujours des maladies graves. Il n'y a pas besoin d'être très intime de sa famille pour connaître ce genre de maladie-là, j'imagine.
Vous avez raison. En tout cas, s'il s'agit de certaines maladies mentales qui sont héréditaires, comme la chorée de Huntington, ou s'il s'agit de la mucoviscidose, de la myopathie, de l'hémophilie, je peux vous assurer que, au niveau de la famille nucléaire dont j'ai parlé, les grands-parents, les grands-oncles, les grands-tantes, les parents, les oncles, les tantes, les enfants, ça se sait.
Remue Ménage, Radio Zone 93.8, nous parlons de l'amiosynthèse en compagnie de Christine de la consultation des sages-femmes et en conversation en ce moment avec le professeur Éric Angèle, spécialiste en la matière. Vous pouvez toujours nous téléphoner au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse.
C'est une excellente question. Il ne peut pas se faire à toutes les femmes enceintes pour répondre de façon très, très simple et brève à votre question pour deux raisons.
J'ai oublié de poser la question d'abord au professeur Angèle pour que vous sachiez de quoi il cause. Je demandais effectivement au professeur Angèle s'il était possible de faire des tests pour toutes les femmes, systématiquement telle la myosynthèse. Parce qu'évidemment, se pose derrière tous ces choix médicaux un problème éthique important. Est-ce que oui ou non, on va accepter d'avoir des enfants anormaux dans une société qui les accueille avec pas beaucoup de sympathie et pas beaucoup d'attention? Et alors, j'ai posé toute une série de questions suite à cette première pour arriver à se faire une meilleure idée de quel est l'avenir, comment choisir en meilleure conscience et en meilleure connaissance face à ce problème éthique. Alors, professeur Angèle, est-ce qu'on pourrait faire le test de la myosynthèse à toutes les femmes?
Pour deux raisons. L'une, c'est que tous les couples ne voudraient pas éventuellement recourir à ce test. Vous savez que c'est une question de culture, d'éthique, de foi religieuse aussi, que certaines personnes ne se verraient pas dans la situation d'interrompre une grossesse, même s'ils savaient qu'il y a un problème. Donc, nous avons un très grand respect pour cette attitude, et par là même, nous ne pouvons pas préconiser le test pour tout le monde. Il faut avoir les disponibilités voulues pour s'en remettre à lui. Par ailleurs, il y aurait deux autres questions à envisager. La première est la suivante. Nous venons de le dire, la myosynthèse actuellement connaît environ sur 1000 tests, trois fois, je vous l'ai dit, une fois sur 300, trois fois sur 1000, un problème d'avortement malencontreux qu'on lui attribue. Donc, ce que l'on envisage comme raisonnable, c'est de proportionner les risques que l'on prend, qu'une grossesse puisse souffrir d'un tel test lorsque les choses vont mal, à l'enjeu même, c'est-à-dire à l'indication. Voyez-vous même, si vous recherchez une anomalie qui se produit, disons, à la fréquence d'une fois sur 1000, et que pour reconnaître cette anomalie qui, dans le cas que j'ai cité, se produit à la fréquence d'une fois sur 1000, il va y avoir trois fausses couches malencontreuses dues au test lui-même. Vous avez fait 1000 tests. Quel est le bilan? Eh bien, une fois sur 1000, vous avez mis en évidence un problème sérieux et il était important pour les parents d'en avoir connaissance à un stade où l'on peut encore faire quelque chose sur le plan d'interruption de la grossesse. Et en parallèle à cette démarche, vous avez perdu trois grossesses qui, autrement, auraient évolué normalement, à vue humaine normalement et sans problème. C'est un peu cher. Au sens, si vous voulez, du tribut que l'on paye à cette forme moderne de dépistage. Et la troisième question est un peu plus prosaïque et elle pourrait avoir sa solution sur le plan pratique, mais ce sont des tests qui demandent à être bien faits avec un personnel qui est extrêmement spécialisé. Et si l'on testait toutes les grossesses, prenez Genève par exemple, où je présume il y a quelque chose comme 4 à 6 000 naissances par année, si l'on testait toutes les grossesses, il faudrait avoir le potentiel technique de tester autant de grossesses, ce qui, je le répète, n'est pas insoluble, mais enfin n'est pas encore accessible aux moyens techniques qui sont à notre disposition.
Mais au niveau des contraintes médicales, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer que des recherches plus approfondies diminueraient les risques, ou on en est arrivé à un stade où on sait qu'on ne peut pas diminuer ce risque?
Vous avez des questions extrêmement pertinentes et très intéressantes parce que l'on peut prévoir à une échéance dans le temps qui serait vraiment aventureux et présomptueux de citer, mais on peut prévoir que des méthodes de plus en plus anodines, en quelque sorte de moins en moins risqué, encore que j'y insiste, le risque de ces tests est un risque raisonnable. Mais on s'achemine vers des méthodes dans un monde qui techniquement avance si vite, à des méthodes qui ont de moins en moins de risques. Parfois, l'on aime à envisager que le temps vient, c'est certainement pas demain, mais c'est peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, que sais-je, le temps vient où on fera les tests, non plus au niveau de l'habitat du futur bébé, donc de la matrice de sa maman, mais on fera ces tests dans le sang de sa maman. C'est incroyable ce que les futurs bébés laissent de traces dans l'organisme maternel à tous les niveaux. Et on sait qu'il y a des cellules du bébé qui circulent dans le sang de sa maman. Il y a des produits chimiques qui émanent du bébé qui circulent dans le sang de sa maman. Et ces éléments-là, éléments cellulaires, éléments chimiques, vont se prêter de plus en plus aux tests de toute importance qui iront jusqu'à nous révéler la formule chromosomique d'un futur bébé. Ce n'est pas tellement futuriste. Et même pour ce qui est de certains éléments chimiques, c'est déjà fait.
Est-ce qu'à une femme, peu importe son âge, qui serait extrêmement angoissée à l'idée d'une malformation quelconque dont pourrait souffrir son enfant, vous lui accorderiez le droit de faire la myosynthèse dans n'importe quelle circonstance pour calmer son angoisse ?
J'aime beaucoup votre question parce que je ne crois pas que ce soit une faveur qu'on fasse aux femmes de leur faire un test pour savoir si elles auront un bébé qui est normal, si c'est leur décision. Je pense que c'est normal et que c'est donc un souci qui est le leur d'abord et auquel nous devons répondre d'une façon tout à fait non seulement fraternelle, je dirais, mais avec tous les éléments possibles pour que cela ait lieu à une condition. Et cela est très important. C'est que cette personne, chez laquelle il y a une indication très relative ou importante, mais subjective, disons, de faire un test, parce que le risque est faible en réalité, c'est que, juste comme nous l'avons fait auparavant, nous expliquions à cette personne, de façon toute posée, sans aucun désir d'alarmer en quoi que ce soit l'intéresser à cette question, de présenter aussi objectivement que possible les avantages et les inconvénients de la méthode. Et une fois que cette femme a compris qu'elle est, dans son cas particulier, cette femme ou ce couple, quels sont dans leur cas particulier les avantages et les inconvénients de cette méthode, c'est eux qui jugent, c'est eux qui pèsent, et dans la mesure où nous avons la capacité technique de faire ces tests, c'est essentiel qu'ils puissent avoir lieu.
Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, qu'il y a plein de gens qui, aujourd'hui, se questionnent sur toutes les manipulations génétiques diverses qui vont, j'imagine, des tests que vous pratiquez aux naissances in vitro, etc. Est-ce que ça a fait partie de votre réflexion de se dire, mais si on peut, par exemple, à partir du moment où on peut déterminer le sexe, n'arriverait-on pas à la situation où on voit que c'est une fille, puis comme on n'a pas envie d'une fille, alors on interrompra la grossesse, c'est-à-dire une utilisation abusive des connaissances génétiques?
Alors, à l'instant, nous étions en train de dire que si, pour des raisons d'anxiété, une personne, une femme, un couple souhaitait avoir ce test, est-ce que dans ces conditions, il était normal d'y accéder ? Et j'ai répondu, vous l'avez entendu, oui, bien sûr. Il y a une question sur laquelle les avis peuvent être divisés, mais ils ne le sont pas en Suisse, je peux vous le dire, parce que par des contacts et des échanges avec des collègues, je sais ceci. C'est que lorsqu'il est apparent, et ce n'est peut-être pas toujours apparent, mais s'il est apparent qu'un couple voudrait avoir un de ces tests qui sont d'abord destinés à dépister des anomalies qui compromettent gravement le développement d'un futur bébé, si nous savons ou si nous avons des doutes sur le motif, savoir que on préférerait une fille à un garçon ou un garçon à une fille, nous refusons le test, ou si nous ne refusons pas le test, et c'est un des rares cas où nous le refusons après information et échange d'idées, et si nous ne le refusons pas, nous réserverons de ne pas révéler le sexe du futur bébé à l'usager du test lorsqu'il se fait dans ces conditions.
Pour conclure, je vais peut-être juste lire une petite phrase que j'ai trouvée sur un dépliant qui est distribué par l'hôpital cantonal universitaire de Genève, mais que vous avez signé conjointement avec le professeur Hermann, qui dit « Il est du devoir des médecins et du personnel médical auquel se confie une future mère de prévoir les éventualités donc, de malformations et dans la mesure du possible de les prévenir. » Ça veut dire que vous pensez qu'il est vraiment important qu'on encourage les gens à faire ce test résolument pour diminuer toutes les possibilités de malformations à propos des enfants.
Information. Je ne crois pas que nous devions faire campagne pour que le test soit utilisé au maximum. Je crois que nous devons dire à un public très capable de juger qu'avec la technique moderne sont venus des moyens qui nous permettent de prévoir certains problèmes. Cela, le public doit le savoir et ce même public et les couples, les futures mamans, doivent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes juger s'il leur est utile ou opportun de s'en remettre à ces méthodes ou de s'en abstenir.
Mais vous pensez qu'il est du devoir de n'importe quel gynécologue, au moment où il est en face de lui, une femme qui atteint la trentaine par exemple, de lui parler de ce test ?
Absolument. Je crois qu'il est également faux de forcer une personne à utiliser un test qu'elle comprend mal et dont elle voit mal les débouchés et les implications. Mais je crois qu'il est tout aussi coupable de ne pas faire savoir à une personne qui pourrait en bénéficier que dans son cas particulier, il y aurait un intérêt à avoir l'information voulue pour prendre une décision éclairée. Mettez-vous à la place d'une femme de 40 ans, pour laquelle qui attend un bébé, qui souhaite depuis longtemps avoir ce bébé, ou même qui simplement souhaite la naissance de ce bébé, et là, à cet âge-là, un risque d'environ 1%. Une fois sur 100 femmes de 40 ans, il y a un enfant qui vient avec une trisomie 21, trois chromosomes 21 au lieu de deux, donc ce que l'on appelle, j'ai déjà dit par préjugé, le mongolisme, n'est-ce pas ? Eh bien, cette femme a donc un risque sur 100 d'avoir, au terme de sa grossesse, un enfant avec une trisomie 21. Supposer qu'elle n'ait pas été informée de cette réalité par son médecin, qu'elle ne saurait pas son droit à des griefs, je pense. Ça ne veut pas dire qu'elle ferait un procès, mais je veux dire, elle aurait le droit à des griefs d'apprendre qu'on a oublié de lui dire qu'elle avait un risque de 1%. D'avoir l'enfant trisomique qui, malheureusement, maintenant, est à sa charge et à celle de son conjoint et de son mari.
Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.
Merci, professeur Angèle, oui, effectivement, nous avoir accordé cet entretien. Alors, Christine, peut-être nous arrivons à la conclusion de notre dossier sur la myosynthèse. Les propos du professeur Angèle ou tout ce qu'on a pu discuter ce soir t'amènent à faire une petite conclusion.
Bon, c'est vrai que moi, je le rejoins tout à fait quand il dit information. C'est très important, même si ça prend du temps, même si c'est difficile de se confronter à ce genre de choses quand on est enceinte, mais c'est important d'accompagner, d'amener les femmes et les couples à d'abord un petit peu se mettre dans une chose plus difficile, à savoir on est enceinte, on fait le projet d'un enfant qui va bien, puis on vous parle de quelque chose qui pourrait mal tourner. Donc c'est très important que les gens s'arrêtent, que les couples s'arrêtent à un moment donné, après la révélation du test de grossesse, au moment où tout est là, tout est dit, tout est prévu. C'est important qu'ils s'arrêtent et qu'ils se posent un certain nombre de questions. D'autre part, peut-être que ce serait un progrès que les gens se posent des questions avant la conception. Et ce serait peut-être une idée, suivant l'histoire familiale, et suivant les projets qu'on a par rapport à un enfant à un certain âge, de bénéficier de cette consultation à l'Institut de génétique avant d'avoir un test positif.
J'ai discuté un petit peu à bâton rompu avec Rosangela du Centre de santé des femmes et entre les deux, on en arrivait aussi à dire, ce qui fera un petit peu aussi l'objet de ma conclusion, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que finalement, c'est vrai que ces deux tests, que ce soit la myosynthèse ou la chorio-synthèse ou même les éventuels futurs tests dont nous parlait le professeur Angèle, qui peuvent nous permettre de savoir, de décider si oui ou non on va garder une grossesse, quelque part, c'est assez génial parce que ça offre tout à coup à des femmes à partir de 35 ans la possibilité d'avoir une grossesse sans avoir ce poids énorme de dire je risque l'anomalie et c'est horrible. Et surtout, certainement beaucoup d'entre elles avaient renoncé à faire un enfant à cause de cette menace. Et comme aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui décident de faire des enfants plus tard que ce qu'on faisait avant, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que des femmes à 35 ans n'ont toujours pas d'enfants et ont envie d'en avoir. Donc finalement, ces tests amènent une possibilité nouvelle pour les femmes. Mais, et puis bon, il y avait quand même un petit mais dans notre conversation, c'est de dire, c'est vrai que malgré tout, il ne faut quand même pas non plus tomber dans le piège de la super médicalisation de l'acte de grossesse, parce que bientôt, les généticiens s'empareront de la grossesse du début jusqu'à la fin. On se demande ce qu'il en restera pour les femmes. Hein. Actuellement, on pratique déjà la fécondation in vitro. Bientôt, on conserve les enfants en vivant, c'est un terme un peu grossier, mais à partir de 6 mois, si une femme doit accoucher, paraît-il qu'on peut garder un fœtus vivant et l'amener à terme. Donc finalement, combien de temps il restera réellement dans le ventre de la mère, dans sa possession? Ça commence à raccourcir sacrément. Alors on se dit que quand même, attention aux soi-disant progrès qui amènent finalement à retirer à la femme le droit de regard sur sa grossesse en entier. Alors je crois que ce qui serait peut-être intéressant de dire, c'est que ces tests, en tout cas, ils sont bons parce que quelque part, ils calment les angoisses, évitent des problèmes au moment de l'accouchement, mais qu'il faut les regarder avec beaucoup d'attention et prendre du recul et choisir en bonne connaissance de cause.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le fait que le dépistage soit bien maîtrisé à l'heure actuelle qui rend plus agréable et plus confortable le choix de faire un enfant, disons, à partir de 35 ans. Mais la majorité des femmes en Suisse font des enfants entre 25 et 32, il faut quand même être clair. On parle beaucoup plus, effectivement, des femmes qui ont un premier enfant plus âgées, parce que c'est plus devenu un réel problème. On pense que c'est vraiment devenu plutôt la routine. C'est tout à fait possible maintenant de mener à bien et dans un certain nombre de sécurité un bébé à cet âge-là. Mais bon, les femmes, malgré tout, la majorité des femmes vivent et traversent le processus de la grossesse de façon tout à fait pas normale, mais parce que pour chacune c'est une chose, une belle chose individuelle ou une difficulté qui est tout à fait personnelle. Simplement, ça se passe tout à fait bien et sans anomalie. Je crois que l'intérêt de ces tests, il est justement fait pour des familles, des couples ou des femmes qui ont vraiment fait comme projet de vie d'avoir des enfants, mais vraiment en général. Il y a des femmes qui ont un projet de vie de ne pas avoir d'enfants et d'autres qui ont comme projet de vie d'avoir des enfants. Et pour ces femmes-là, qui ont eu des ennuis ou des tristesses dans leur histoire de grossesse, c'est important qu'elles aient la possibilité de bénéficier de contrôles supplémentaires.
Je te remercie beaucoup, Christine, d'être venue en direct avec nous ce soir. On rappelle quand même donc, que tu travailles à la consultation des sages-femmes qui se trouve à Genève, 12-14 rue Voltaire, que n'importe quelle femme peut vous consulter pour... Tu peux nous rappeler quel service vous offrez à la consultation des sages-femmes?
Alors, la nouveauté à Genève, c'est que c'est possible maintenant pour des femmes qui le choisissent d'avoir une grossesse suivie par des sages-femmes. Ça, c'est une des possibilités. Ça existait déjà au Centre de santé des femmes avant, hein, qui était notre ancien lieu de travail. Mais maintenant, on a décidé d'ouvrir notre propre consultation. À partir du mois de janvier, il y a la possibilité de suivre des groupes de préparation à la naissance également. On peut aussi nous demander nos services à propos de soins à domicile après l'accouchement. Et ça nous arrive d'accompagner un certain nombre de femmes, et c'est une minorité de toute façon, à vivre une histoire de naissance à domicile.
Voilà. Alors vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, consultation sur rendez-vous au 44 75 80, consultation des sages-femmes. Merci Christine.
Merci. Is that moment your heart is broken and you can't stand the face? But let me warn you, it's just the start of the getaway and the chase. There is that moment your hands are empty and no one's around the place.
just the start of the getaway and the chase. You find yourself near the old familiar, looking for that lost embrace. And while you wander, your love may wander to some sweeter place and start the race.
Et oui, Remue Ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour des raisons techniques tout à fait dépendantes de ma volonté, vous n'avez pas entendu le début de notre émission, alors profitez de la réentendre en rediffusion, soit ce soir, c'est-à-dire mercredi, dès 23h, ou encore demain, jeudi, à 11h. Pour tout savoir sur l'amniocentèse, donc Remue Ménage, Radio Zone 93.8.
Alors nous vous rappelons, parce que vous ne l'avez pas entendu, que nous vivrons, vous vivrez ce soir la grande nuit de l'amour.
Enfin.
Oui, on avait dit que l'amniocentèse était déjà pour nous une histoire, une grande histoire d'amour, comme ça l'est toujours quand on a envie d'avoir un enfant. Alors d'abord, ça continuera après l'amniocentèse par l'amour la première fois, avec en compagnie de Marianne et Viviane. Dans Radio Pleine Lune. Et puis, dès 21h, on vous fera passer encore 2 heures agréables en compagnie de plein de chansons d'amour. Bien sûr, les chansons d'amour, il y en a plein partout, dans tous les chanteurs, 75% de leur répertoire qui est des chansons d'amour. Mais on vous en trouvera des très, très spéciales, très, très bien cataloguées.
Dans un instant, les informels de Radio Pleine Lune. Vous écoutiez Remue Ménage sur Radio Zone 93.8.
Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien.